les posséder, deuxième partie, chapitre 6. Pierre Stepanovitch se remue. Le jour de la fête avait été définitivement fixé, mais Vomlamk allait s'assombrissant de plus en plus. Il était rempli de pressentiments étranges et sinistres, ce qui inquiétait fort Julie Mikhaïlovna. À la vérité, tout ne marchait pas le mieux du monde. Notre ancien gouverneur, l'aimable Ivan Osipovitch, avait laissé l'administration dans un assez grand désordre. En ce moment, on redoutait le choléra. La peste bovine faisait de grands ravages dans certaines localités. Pendant tout l'été, les villes et les villages avaient été désolés par une foule d'incendies où le peuple s'obstinait à voir la main d'une bande noire. Le brigandage avait pris des proportions vraiment anormales. Mais tout cela, bien entendu, était trop ordinaire pour troubler la sérénité d'André Antonovitch, s'il n'avait eu d'autres et plus sérieux sujets de préoccupation. Ce qui frappait surtout Julie Mikhaïlovna, c'était la taciturnité croissante de son mari, qui, chose singulière, devenait de jour en jour plus dissimulé. Pourtant, qu'avait-il à cacher ? Il est vrai qu'il faisait rarement de l'opposition à sa femme, et que la plupart du temps il lui obéissait en aveugle. Ce fut, par exemple, sur les instances de Julie Mikhaïlovna, qu'on prit deux ou trois mesures très risquées et presque illégales qui tendaient à augmenter le pouvoir du gouverneur. On fit dans le même but plusieurs compromis fâcheux. On porta pour des récompenses tels gens qui méritaient de passer en jugement et d'être envoyés en Sibérie. On décida systématiquement d'écarter certaines plaintes, de jeter au panier certaines réclamations. Tous ces faits, aujourd'hui connus, furent dus à l'action prédominante de Julie Mikhaïlovna. Lamk non seulement signait tout, mais ne discutait même pas le droit de sa femme à s'immiscer dans l'exercice de ses fonctions. Parfois, en revanche, à propos de pure bagatelle, il se rebellait d'une façon qui étonnait la gouvernante. Sans doute, après des jours de soumission, il sentait le besoin de se dédommager par de petits moments de révolte. Malheureusement, Julie Mikhaïlovna, malgré toute sa pénétration, ne pouvait comprendre ces résistances inattendues. Hélas, elle ne s'en inquiétait pas, et il en résulta de là bien des malentendus. Je ne m'étendrai pas sur le chapitre des erreurs administratives. Tel n'est pas l'objet que je me suis proposé en commençant cette chronique. Mais il était nécessaire de donner quelques éclaircissements à ce sujet pour l'intelligence de ce qui va suivre. Je reviens à Julie Mikhaïlovna. La pauvre dame, je la plains fort, aurait pu atteindre tout ce qu'elle poursuivait avec tant d'ardeur, la gloire et le reste, sans se livrer aux agissements excentriques par lesquels elle se signala dès son arrivée chez nous. Mais, soit surabondance de poésie, soit effet des longs et cruels déboires dont avait été remplie sa première jeunesse, toujours est-il qu'en changeant de fortune, elle se crut soudain une mission. Elle se figura qu'une langue de feu brillait sur sa tête. Par malheur, quand une femme s'imagine avoir ce rare chignon, il n'est pas de tâche plus ingrate que de la détromper. Et au contraire, rien n'est plus facile que de la confirmer dans son illusion. Tout le monde flatta à l'envi celle de Julie Mikhaïlovna. La pauvrette se trouva du coup le jouet des influences les plus diverses, alors même qu'elle pensait être profondément originale. pendant le peu de temps que nous l'eûmes pour gouvernante, nombre d'aigres fins surent exploiter sa naïveté au mieux de leurs intérêts. Et, déguisés sous le nom d'indépendance, quel incohérent pêle-mêle d'inclinations contradictoires! Elle aimait à la fois la grande propriété, l'élément aristocratique, l'accroissement des pouvoirs du gouverneur, l'élément démocratique, les nouvelles institutions, l'ordre, la libre pensée, les idées sociales, l'étiquette sévère d'un salon du grand monde et le débraillé des jeunes gens qui l'entouraient. Elle rêvait de donner le bonheur et de concilier les inconciliables. Plus exactement, de réunir toutes les parties dans la commune adoration de sa personne. Elle avait aussi ses favoris. Pierre Stepanovitch, qui l'accablait des plus grossières flatteries, était vu par elle d'un très bon œil. Mais il lui plaisait encore pour une autre raison fort bizarre, et ici se montrait bien le caractère de la pauvre dame. Elle espérait toujours qu'il lui révélerait un vaste complot politique. Quelque étrange que cela puisse paraître, il en était ainsi. Il semblait, je ne sais pourquoi, à Julie Mikhaïlovna que, dans la province, se tramait une conspiration contre la sûreté de l'État. Pierre Stepanovitch, par son silence dans certains cas et par de petits mots énigmatiques dans d'autres, contribuait à enraciner chez elle cette singulière idée. Elle le supposait en relation avec tous les groupes révolutionnaires de la Russie, mais en même temps dévouée à sa personne jusqu'au fanatisme. Découvrir un complot, mériter la reconnaissance de Pétersbourg, procurer de l'avancement à son mari, caresser la jeunesse pour la retenir sur le bord de l'abîme, telles étaient les chimères dont se berçait l'esprit fanatique de la gouvernante. Puisqu'elle avait sauvé et conquis Pierre Stepanovitch, à cet égard, elle n'avait pas le moindre doute. Elle sauverait tout aussi bien les autres. Aucun d'eux ne périrait. Elle les préserverait tous de leur perte. Elle les remettrait dans la bonne voie. Elle appellerait sur eux la bienveillance du gouvernement. Elle agirait en s'inspirant d'une justice supérieure. Peut-être même l'histoire et tout le libéralisme russe béniraient son nom. Et cela n'empêcherait pas le complot d'être découvert. Tous les profits à la fois. Mais il était nécessaire qu'au moment de la fête, Andrei Antonovitch eût un visage un peu plus riant. Il fallait absolument lui rendre le calme et la sérénité. À cette fin, Julie Mikhaïlovna envoya à son mari Pierre Stepanovitch, espérant que ce dernier, par quelque moyen connu de lui, peut-être même par quelque confidence officieuse, saurait triompher de l'abattement de gouverneur. Elle avait toute confiance dans l'habileté du jeune homme. Depuis longtemps, Pierre Stepanovitch n'avait pas mis le pied dans le cabinet de von Lamke. Lorsqu'il y entra, sa victime ordinaire était justement de fort mauvaise humeur. Une complication avait surgi qui causait le plus grand embarras à M. von Lamke. Dans un district, celui-là même que Pierre Stepanovitch avait visité dernièrement, un sous-lieutenant avait reçu devant toute sa compagnie un blâme verbal de son supérieur immédiat. L'officier, récemment arrivé de Pétersbourg, était un homme jeune encore. Toujours silencieux et morose, il ne laissait pas d'avoir un aspect assez imposant, quoiqu'il fût petit, gros et rougeau. S'entendant réprimander, il avait poussé un cri qui avait stupéfié toute la compagnie. s'était jeté tête baissée sur son chef et l'avait furieusement mordu à l'épaule. On n'avait plus qu'à grand-peine lui faire lâcher prise. À n'en pas douter, ce sous-lieutenant était fou. Du moins, l'enquête révéla que, depuis quelque temps, il faisait des choses fort étranges. Ainsi, il avait jeté hors de son logement deux icônes appartenant à son propriétaire et brisé l'un d'eux à coups de hache. Dans sa chambre, il avait placé sur trois supports disposés en forme de lutrin les ouvrages de Vogt, de Moleschoff et de Buechner. Devant chacun de ces lutrins, il brûlait des bougies de cire comme on en allume dans les églises. Le nombre des livres trouvés chez lui donnait lieu de penser que cet homme lisait énormément. S'il avait eu 50 000 francs, il se serait peut-être embarqué pour les îles Marquises. Comme ce cadet dont M. Herzen raconte quelque part l'histoire avec une verve si humoristique. Quand on l'arrêta, on saisit sur lui et dans son logement quantité de proclamations des plus subversives. En soi, cette découverte ne signifiait rien, et, à mon avis, elle ne méritait guère qu'on s'en préoccupât. Était-ce la première fois que nous voyions des écrits séditieux? Ceci, d'ailleurs, n'était pas nouveau. C'était, comme on le dit plus tard, les mêmes qui avaient été répandus récemment dans la province de K. Élie Poutine assurait avoir vu de petites feuilles toutes pareilles à celles-là pendant un voyage qu'il avait fait dans un gouvernement voisin 6 semaines auparavant. Mais il se produisit une coïncidence dont André Antonovitch fut très frappé. Dans le même temps, en effet, l'intendant des Spigoulines apporta à la police 2 ou 3 liasses de proclamations qu'on avait introduites de nuit dans la fabrique et qui étaient identiques avec celles du sous-lieutenant. Les paquets n'avaient pas encore été défaits et aucun ouvrier n'en avait pris connaissance. La chose était sans importance. Néanmoins, elle parut louche au gouverneur et le rendit très soucieux. Alors venait de commencer cette affaire Spigouline dont on a tant parlé chez nous et que les journaux de la capitale ont raconté avec de telles variantes. 3 semaines auparavant, le choléra asiatique avait fait invasion parmi les ouvriers de l'usine. Il y avait eu un décès et plusieurs cas. L'inquiétude s'empara de notre ville, car le choléra sévissait déjà dans une province voisine. Je ferai remarquer qu'en prévision de l'arrivée du fléau, notre administration avait pris des mesures prophylactiques aussi satisfaisantes que possible. Mais les Spigoulines étant millionnaires et possédant de hautes relations, on avait négligé d'appliquer à leur fabrique les règlements sanitaires. Soudain, des plaintes universelles s'élevèrent contre cette usine qu'on accusait d'être un foyer d'épidémie. Elle était si mal tenue, disait-on, les locaux affectés aux ouvriers notamment étaient si sales que cette malpropreté devait suffire, en l'absence de toute autre cause, pour engendrer le choléra. Des ordres furent immédiatement donnés en conséquence, et André Antonovitch veilla à ce qu'ils fussent promptement exécutés. Pendant 3 semaines, on nettoya la fabrique. Mais les Spigoulines, sans qu'on sût pourquoi, y arrêtèrent le travail. L'un des 2 frères résidait constamment à Pétersbourg. L'autre, à la suite des mesures de désinfection prises par l'autorité, se rendit à Moscou. L'intendant chargé de régler les comptes vola effrontément les ouvriers. Ceux-ci commencèrent à murmurer, voulurent toucher ce qui leur était dû et allèrent bêtement se plaindre à la police. Du reste, ils ne criaient pas trop et présentaient leurs réclamations avec assez de calme. Ce fut sur ces entrefaites qu'on remit au gouvernement les proclamations trouvées par l'intendant. Pierre Stepanovitch ne se fit point annoncer et pénétra dans le cabinet d'André Antonovitch avec le sans-façon d'un ami, d'un intime. D'ailleurs, en ce moment, c'était Julie Mikhaïlovna qui l'avait envoyé. En l'apercevant, von Lambke laissa voir un mécontentement très marqué et, au lieu d'aller au-devant de lui, s'arrêta près de la table. Avant l'arrivée du visiteur, il se promenait dans la chambre où il s'entretenait en tête-à-tête avec un employé de sa chancellerie, un gauche et maussade allemand du nom de Blum, qu'il avait amené de Pétersbourg, malgré la très vive opposition de Julie Mikhaïlovna. À l'apparition de Pierre Stepanovitch, l'employé se dirigea vers la porte, mais il ne sortit pas. Le jeune homme crut même remarquer qu'il échangeait un regard d'intelligence avec son supérieur. Oh, oh, je vous y prends, administrateur sournois, cria gaiement Pierre Stepanovitch, et il couvrit avec sa main une proclamation qui se trouvait sur la table. Cela va augmenter votre collection, hein? André Antonovitch rougit, et sa physionomie prit une expression de mauvaise humeur plus accentuée encore. « Laissez, laissez cela tout de suite » cria-t-il, tremblant de colère. « Et ne vous avisez pas, monsieur !»« Qu'est-ce que vous avez? On dirait que vous êtes fâché !»« Permettez-moi de vous faire observer, monsieur, que désormais je suis décidé à ne plus tolérer votre sans-façon. Je vous prie de vous en souvenir. » « Ah, diable, c'est qu'il est fâché, en effet !»« Taisez-vous donc! Taisez-vous !» vociféra von Lambke en frappant du pied. « N'ayez pas l'audace !» Dieu sait quelle tournure les choses menaçaient de prendre. Hélas, il y avait ici une circonstance ignorée de Pierre Stepanovitch et de Julie Mikhaïlovna elle-même. Depuis quelques jours, le malheureux André Antonovitch avait l'esprit si dérangé qu'il en était venu à soupçonner in petto Pierre Stepanovitch d'être l'amant de sa femme. Lorsqu'il se trouvait seul, la nuit surtout, cette pensée le faisait cruellement souffrir. Je pensais que, quand un homme vous retient deux soirs de suite jusqu'après minuit pour vous lire son roman en tête à tête, il oublie lui-même la distance qui le sépare de vous. Julie Mikhaïlovna me reçoit sur un pied d'intimité. Comment vous déchiffrez ? Répliqua non sans dignité Pierre Stepanovitch. À propos, voici votre roman, ajouta-t-il en déposant sur la table un gros cahier roulé en forme de cylindre et soigneusement enveloppé dans un papier bleu. Lambke rougit et se troubla. « Où donc l'avez-vous trouvé ? » demanda-t-il aussi froidement qu'il le put. Mais sa joie était visible, malgré tous les efforts qu'il faisait pour la cacher. « Figurez-vous qu'il avait roulé derrière la commode. Quand je suis rentrée l'autre jour, je l'aurais jeté trop brusquement sur ce meuble. » C'est avant-hier seulement qu'on l'a retrouvé en lavant les parquets. Mais vous m'avez donné bien de l'ouvrage. » Le gouverneur, voulant conserver un air de sévérité, baissa les yeux. « Vous êtes cause que depuis deux nuits je n'ai pas dormi. Voilà déjà deux jours que le manuscrit est retrouvé. Si je ne vous l'ai pas rendu tout de suite, c'est parce que je tenais à le lire d'un bout à l'autre. » Et comme je n'ai pas le temps pendant la journée, j'ai dû y consacrer mes nuits. Eh bien, je suis mécontent de ce roman. L'idée ne me plaît pas. Peu importe, après tout, je n'ai jamais été un critique. D'ailleurs, quoique mécontent, Batouchka, je n'ai pas pu m'arracher à cette lecture. Les chapitres 4 et 5, c'est... le diable c'est quoi? Et que d'humour vous avez fourré là-dedans! J'ai bien ri. Comme vous savez pourtant provoquer l'hilarité sans que cela paraisse. Dans les chapitres 9 et 10, il n'est question que d'amour. Ce n'est pas mon affaire, mais cela produit tout de même de l'effet. Pour ce qui est de la fin, oh, je vous battrai volontiers. Voyons, quelle est votre conclusion? Toujours l'éternel balançoire, la glorification du bonheur domestique. Vos personnages se marient, ont beaucoup d'enfants et font bien leurs affaires. Vous enchantez le lecteur, car moi-même, je le répète, je n'ai pas pu m'arracher à votre roman. Mais vous n'en êtes que plus coupable. Le public est bête. Les hommes intelligents devraient l'éclairer, et vous, au contraire. Allons, assez, adieu. Une autre fois, ne vous fâchez pas. J'étais venue pour vous dire deux petits mots urgents, mais vous êtes si mal disposée. » André Antonovitch, pendant ce temps, avait serré son manuscrit dans une bibliothèque en bois de chêne et fait signe à Blum de se retirer. L'employé obéit d'un air de chagrin.
« Je ne suis pas mal disposé, seulement j'ai toujours des ennuis, »
grommela le gouverneur. Quoiqu'il eût prononcé ces mots en fronçant les sourcils, sa colère avait disparu. Il s'assit près de la table.
« Asseyez-vous, » continua-t-il, « et dites-moi vos deux mots. Je ne vous avais pas vu depuis longtemps, Pierre Stepanovitch. Seulement, à l'avenir, n'entrez plus brusquement comme cela. On est quelquefois occupé. »
C'est une habitude que j'ai. »
Je le sais, et je crois que vous n'y mettez aucune mauvaise intention. Mais parfois, on a des soucis. Asseyez-vous donc. »
Pierre Stepanovitch s'assit à la turque sur le divan.
Ainsi, vous avez des soucis. Est-il possible que ce soit à cause de ces niaiseries ?
Dit-il en montrant la proclamation.
Je vous apporterai de ces petites feuilles autant que vous en voudrez. J'ai fait connaissance avec elles dans le gouvernement de K.
Pendant que vous étiez là ?
Naturellement, ce n'était pas en mon absence. Elle a aussi une vignette, une hache est dessinée au haut de la page.
Permettez. Il prit la proclamation.
En effet, la hache y est bien, c'est exactement la même.
Oui, il y a une hache. Vous voyez la hache.
Eh bien, c'est là ce qui vous fait peur ?
Il ne s'agit pas de la hache. Du reste, je n'ai pas peur. Mais cette affaire, c'est une affaire telle. Il y a ici des circonstances.
Lesquelles ?
Parce que cela a été apporté à la fabrique ?
Mais vous savez, bientôt les ouvriers de cette fabrique rédigeront eux-mêmes des proclamations.
Comment cela ? Demanda sévèrement von Lamke.
C'est ainsi. Ayez l'œil sur eux. Vous êtes un homme trop mou, André Antonovitch. Vous écrivez des romans. Or, ici, il faudrait procéder à l'ancienne manière.
Comment, à l'ancienne manière ? Que me conseillez-vous ?
On a nettoyé la fabrique. J'ai donné des ordres et ils ont été exécutés.
Mais les ouvriers s'agitent. Vous devriez les faire fustiger tous. Ce serait une affaire finie.
Ils s'agitent ? C'est une absurdité.
J'ai donné des ordres et l'on a désinfecté la fabrique.
Hé, André Antonovitch, vous êtes un homme mou.
D'abord, je suis loin d'être aussi mou que vous le dites. Et ensuite... répliqua von Lampke froissé. Il ne se prêtait à cette conversation qu'avec répugnance, et seulement dans l'espoir que le jeune homme lui dirait quelque chose de nouveau.
« Ah, encore une vieille connaissance !»
interrompit Pierre Stepanovitch en dirigeant ses regards vers un autre document placé sous un presse-papier. C'était une petite feuille, qui ressemblait aussi à une proclamation, et qui avait été évidemment imprimée à l'étranger, mais elle était en vers. Celle-là, je la sais par cœur. Une personnalité éclairée. Voyons un peu. En effet, c'est la personnalité éclairée. J'étais encore à l'étranger quand j'ai fait la connaissance de cette personnalité. Où l'avez-vous dénichée ?
Vous dites que vous l'avez vue à l'étranger ?
Demanda vivement von Lampke.
Oui, il y a de cela 4 mois, peut-être même 5.
Que de choses vous avez vues à l'étranger ? Observa avec un regard sondeur André Antonovitch. Sans l'écouter, le jeune homme déplia le papier et lut tout haut la poésie suivante. Une personnalité éclairée. Issue d'une obscure origine, Au milieu du peuple, il grandit. Sur lui, le tyran et le barine firent peser leurs joues maudits. Mais, bravant toutes les menaces d'un gouvernement détesté, cet homme fut parmi les masses l'apôtre de la liberté. Dès le début de sa carrière, pour se dérober au bourreau, il dut, sur la terre étrangère, aller planter son fier drapeau. Et le peuple, rempli de haine, depuis Smolensk jusqu'à Tashkent, attendait pour briser ses chaînes le retour de l'étudiant. La multitude impatiente n'attendait de lui qu'un appel pour engager la lutte ardente, renverser le trône et l'autel. Puis, en tout lieu, village ou ville, abolir la propriété, le mariage et la famille, ces fléaux de l'humanité.
Sans doute on a pris cela chez l'officier, hein ? demanda Pierre Stepanovitch. Vous connaissez aussi cet officier ?
Certainement. J'ai banqueté avec lui pendant 2 jours. Il faut qu'il soit devenu fou.
Il n'est peut-être pas fou.
Comment ne le serait-il pas, puisqu'il s'est mis à mordre ?
Mais permettez, si vous avez vu ces vers à l'étranger et qu'ensuite on les trouve ici chez cet officier,
eh bien, c'est ingénieux. Il me semble, André Antonovitch, que vous me faites subir un interrogatoire.
Écoutez,
commença soudain Pierre Stepanovitch avec une gravité extraordinaire.
Ce que j'ai vu à l'étranger, je l'ai fait connaître à quelqu'un lorsque je suis rentré en Russie, et mes explications ont été jugées satisfaisantes. Autrement, votre ville n'aurait pas en ce moment le bonheur de me posséder. Je considère que mon passé est liquidé et que je n'ai de compte à rendre à personne. Je l'ai liquidé non en me faisant dénonciateur, mais en agissant comme ma situation me forçait d'agir. Ceux qui ont écrit à Julie Mikhaïlovna connaissent la chose, et ils m'ont représenté à elle comme un honnête homme. Allons, au diable, tout cela. J'étais venu pour vous entretenir d'une affaire sérieuse, et vous avez bien fait de renvoyer votre ramoneur. L'affaire a de l'importance pour moi, André Antonovitch. J'ai une prière instante à vous adresser.
Une prière ? Parlez, je vous écoute. Et je l'avoue avec curiosité. Et j'ajoute qu'en général, vous m'étonnez passablement, Pierre Stepanovitch.
Von Lamke était assez agité. Pierre Stepanovitch croisa ses jambes l'une sur l'autre.
À Pétersbourg, commença-t-il, j'ai été franc sur beaucoup de choses, mais sur d'autres, celle-ci par exemple, il frappa avec son doigt sur la personnalité éclairée. J'ai gardé le silence, d'abord parce que ce n'était pas la peine d'en parler, ensuite parce que je me suis borné à donner les éclaircissements qu'on m'a demandés. Je n'aime pas, en pareil cas, à aller moi-même au-devant des questions. C'est, à mes yeux, ce qui fait la différence entre le coquin et l'honnête homme obligé de céder aux circonstances. Eh bien, en un mot, laissons cela de côté. Mais maintenant que ces imbéciles, puisqu'aussi bien cela est découvert, qu'ils sont dans vos mains et que je le vois, rien ne saurait vous échapper. Car vous êtes un homme vigilant. En un mot, je suis venu vous demander la grâce de l'un d'eux. Un imbécile aussi, disons même un fou. Je vous la demande au nom de sa jeunesse, de ses malheurs, au nom de votre humanité. Ce n'est pas seulement dans vos romans que vous êtes humain, je suppose. Acheva-t-il avec une sorte d'impatience brutale. Bref, le visiteur avait l'air d'un homme franc, mais maladroit, inhabile, trop exclusivement dominé par des sentiments généreux et par une délicatesse peut-être excessive. Surtout, il paraissait borné. Ainsi en jugea tout de suite von Lamke. Depuis longtemps, du reste, c'était l'idée qu'il se faisait de Pierre Stepanovitch. Et durant ces derniers 8 jours notamment, il s'était maintes fois demandé avec colère, dans la solitude de son cabinet, comment un garçon si peu intelligent avait pu si bien réussir auprès de Julie Mikhaïlovna.
Pour qui donc intercédez-vous et que signifient vos paroles ?
Questionna-t-il en prenant un ton majestueux pour cacher la curiosité qui le dévorait.
Diable, ce n'est pas ma faute si j'ai confiance en vous. Ai-je tort de vous considérer comme un homme plein de noblesse et surtout sensé ? Je veux dire, capable de comprendre. Diable !
Le malheureux, évidemment, avait bien de la peine à accoucher.
Enfin, comprenez, poursuivit-il. Comprenez qu'en vous le nommant, je vous le livre. C'est comme si je le dénonçais, n'est-ce pas ? N'est-il pas vrai ?
Mais comment puis-je deviner, si vous ne vous décidez pas à parler plus clairement ?
C'est vrai, vous avez toujours une logique écrasante, diable. Eh bien, diable, cette personnalité éclairée, cet étudiant, c'est Chatov. Vous savez tout.
Chatov ? Comment Chatov ?
Chatov, c'est l'étudiant dont, comme vous voyez, il est question dans cette poésie. Il demeure ici, c'est un ancien serf. Tenez, c'est lui qui a donné un soufflet.
Je sais, fit le gouverneur en clignant les yeux.
Mais permettez, de quoi donc, à proprement parler, est-il accusé ? Et quel est l'objet de votre démarche ?
Eh bien, je vous prie de le sauver, comprenez-vous ? Il y a 8 ans que je le connais, et j'ai peut-être été son ami, répondit avec véhémence Pierre Stepanovitch.
Mais je n'ai pas à vous rendre compte de ma vie passée, poursuivit-il en agitant le bras. Tout cela est insignifiant. Ils sont au nombre de 3,5, et en y ajoutant ceux de l'étranger, on n'arriverait pas à la dizaine. L'essentiel, c'est que j'ai mis mon espoir dans votre humanité, dans votre intelligence. Vous comprendrez la chose, et vous la présenterez sous son vrai jour, comme le sot rêve d'un insensé, d'un homme égaré par le malheur. Notez, par de longs malheurs, et non comme une redoutable conspiration contre la sûreté de l'État.
Il étouffait presque.
Je vois qu'il est coupable des proclamations qui portent une hache en frontispice,
observa presque majestueusement André Antonovitch.
Permettez pourtant, s'il est seul, comment a-t-il pu les répandre, tant ici que dans les provinces, et même dans le gouvernement de K ? Enfin, ce qui est le point le plus important, où se les est-il procurés ?
Mais je vous dis que, selon toute apparence, ils se réduisent à 5, mettons 10, est-ce que je sais ?
Vous ne le savez pas ?
Comment voulez-vous que je le sache ? Le diable m'emporte !
Cependant, vous savez que Chatov est un des conjurés.
Eh ! Fit Pierre Stepanovitch avec un geste de la main, comme pour détourner le coup droit que lui portait Von Lamke.
Allons, écoutez, je vais vous dire toute la vérité. Pour ce qui est des proclamations, je ne sais rien, absolument rien. Le diable m'emporte. Vous comprenez ce qui signifie le mot « rien » ? Eh bien, sans doute, il y a ce sous-lieutenant et un ou deux autres. Peut-être aussi Chatov et encore un cinquième, voilà tout. C'est une misère. Mais c'est pour Chatov que je suis venu vous implorer. Il faut le sauver, parce que cette poésie est de lui. C'est son œuvre personnelle, et il l'a fait imprimer à l'étranger. Voilà ce que je sais de science certaine. Quant aux proclamations, je ne sais absolument rien.
Si les vers sont de lui, les proclamations en sont certainement aussi. Mais sur quelles données vous fondez-vous pour soupçonner M. Chatov ?
Comme un homme à bout de patience, Pierre Stepanovitch tira vivement de sa poche un portefeuille et y prit une lettre.
« Voici mes données » cria-t-il en la jetant sur la table. Le gouverneur la déplia. C'était un simple billet, écrit 6 mois auparavant et adressé de Russie à l'étranger. Il ne contenait que les 2 lignes suivantes. Je ne puis imprimer ici la personnalité éclairée, pas plus qu'autre chose. Imprimez à l'étranger. I. V. Chatov.
Von Lampke regarda fixement Pierre Stepanovitch. Barbara Petrovna avait dit vrai. Les yeux du gouverneur ressemblaient un peu à ceux d'un mouton, dans certains moments surtout.
C'est-à-dire qu'il a écrit ses vers ici, il y a 6 mois,
se hâta d'expliquer Pierre Stepanovitch.
Mais qu'il n'a pas pu les y imprimer clandestinement. Voilà pourquoi il demande qu'on les imprime à l'étranger. Est-ce clair?
Oui, c'est clair. Mais à qui demande-t-il cela? Voilà ce qui n'est pas encore clair, observa insidieusement Von Lampke.
Mais à Kirillov, donc, enfin! La lettre a été adressée à Kirillov, à l'étranger. Est-ce que vous ne le saviez pas?
Tenez, ce qui me vexe, c'est que peut-être vous faites l'ignorant vis-à-vis de moi, alors que vous êtes depuis longtemps instruit de tout ce qui concerne ces vers. Comment donc se trouvent-ils sur votre table? Vous avez bien su vous les procurer. Pourquoi me mettez-vous à la question s'il en est ainsi?
Il essuya convulsivement avec son mouchoir la sueur qui ruisselait de son front.
« Je sais peut-être bien quelque chose, » répondit vaguement André Antonovitch.
« Mais qui donc est ce Kirillov ?»«
Eh bien, mais c'est un ingénieur arrivé depuis peu ici. Il a servi de témoin à Stavrogin. C'est un maniaque, un fou. Dans le cas de votre sous-lieutenant, il n'y a peut-être en effet qu'un simple accès de fièvre chaude. » Mais celui-là, c'est un véritable aliéné, je vous le garantis. Et, André Antonovitch, si le gouvernement savait ce que sont ces gens, il ne sévirait pas contre eux. Ce sont tous autant d'imbéciles. J'ai eu l'occasion de les voir en Suisse et dans les congrès.
C'est de là qu'ils dirigent le mouvement qui se produit ici?
Mais à qui donc appartient cette direction? Ils sont là 3 individus et demi. Rien qu'à les voir, l'ennui vous prend.
Et qu'est-ce que ce mouvement d'ici? Il se réduit à des proclamations, n'est-ce pas?
Quant à leurs adeptes, quels sont-ils? Un sous-lieutenant, atteint de délirium tremens, et 2 ou 3 étudiants.
Vous êtes un homme intelligent. Voici une question que je vous soumets. Pourquoi ne recrute-t-il pas des individualités plus marquantes? Pourquoi sont-ce toujours des jeunes gens qui n'ont pas atteint leur 22e année? Et encore sont-ils nombreux? Je suis sûr qu'on a lancé à leur trousse 1 million de limiers. Or, combien en a-t-on découvert?
7. Je vous le dis, c'est ennuyeux.
Lampke écoutait attentivement, mais l'expression de son visage pouvait se traduire par ces mots.
On ne nourrit pas un rossignol avec des fables.
Permettez pourtant, vous affirmez que le billet a été envoyé à l'étranger. Mais il n'y a pas ici d'adresse. Comment donc savez-vous que le destinataire était M. Kirillov? Que le billet a été adressé à l'étranger et qu'il a été écrit en effet par M. Chatov?
Vous n'avez qu'à comparer l'écriture de ce billet avec celle de M. Chatov. Quelque signature de lui doit certainement se trouver parmi les papiers de votre chancellerie. Quant à ce fait que le billet était adressé à Kirillov, je n'en puis douter, c'est lui-même qui me l'a montré.
Alors, vous-même?
Eh oui, moi-même, on m'a montré bien des choses pendant mon séjour là-bas. Pour ce qui est de ces vers, ils sont censés avoir été adressés par feu Herzen à Chatov, lorsque celui-ci errait à l'étranger. Herzen les aurait écrits soit en mémoire d'une rencontre avec lui, soit par manière d'éloge, de recommandation, que sais-je. Chatov lui-même répand ce bruit parmi les jeunes gens. « Voilà, dit-il, ce que Herzen pensait de moi. »
La lumière se fit enfin dans l'esprit du gouverneur.
« Ta, 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 je me disais, des proclamations, cela se comprend, mais des vers, pourquoi ?»
Eh, qu'y a-t-il là d'étonnant pour vous?
Eh, le diable, c'est pourquoi je me suis mis à jaser ainsi.
Écoutez, accordez-moi la grâce de Chatov,
et que le diable emporte tous les autres, y compris même Kirillov, qui maintenant se tient caché dans la maison Philippov où Chatov habite aussi. Ils ne s'aiment pas, parce que je suis revenu, mais promettez-moi le salut de Chatov, et je vous les servirai tous sur la même assiette. Je vous serai utile, André Antonovitch. J'estime que ce misérable petit groupe se compose de 9 ou 10 individus. Moi-même, je les recherche. C'est une enquête que j'ai entreprise de mon propre chef. Nous en connaissons déjà 3. Chatov, Kirillov et le sous-lieutenant. Pour les autres, je n'ai encore que des soupçons. Du reste, je ne suis pas tout à fait myope. C'est comme dans le gouvernement de K. Les propagateurs des cris séditieux qu'on a arrêtés étaient 2 étudiants, un collégien, 2 gentilshommes de 12 ans, un professeur de collège et un ancien major, sexagénaire abruti par la boisson. Voilà tout. Et croyez bien qu'il n'y en avait pas d'autres. On s'est même étonné qu'ils fussent si peu nombreux. Mais il faut 6 jours. J'ai déjà tout calculé. 6 jours, pas un de moins. Si vous voulez arriver à un résultat, laissez-les tranquilles encore pendant 6 jours et je vous les livrerai tous dans le même paquet. Mais si vous bougez avant l'expiration de ce délai, la nichée s'envolera. Seulement, donnez-moi Chatov. Je m'intéresse à Chatov. Le mieux serait de le faire venir secrètement ici, dans votre cabinet, et d'avoir avec lui un entretien amical. Vous l'interrogeriez, vous lui déclareriez que vous savez tout. À coup sûr, lui-même se jettera à vos pieds en pleurant. C'est un homme nerveux, accablé par le malheur. Sa femme s'amuse avec Stavrogine. Caressez-le, et il vous fera les aveux les plus complets. Mais il faut 6 jours. Et surtout, surtout pas une syllabe à Julie Mikhailovna. Le secret. Pouvez-vous me promettre que vous vous tairez ? Comment ? Fit Von Lamp en ouvrant de grands yeux. Mais est-ce que vous n'avez rien révélé à Julie Mikhailovna ? À elle ? Dieu m'en préserve ! Et André Antonovitch, voyez-vous, j'ai pour elle une grande estime. J'apprécie fort son amitié, tout ce que vous voudrez. Mais je ne suis pas un niais. Je ne la contredis pas, car il est dangereux de la contredire, vous le savez vous-même. Je lui ai peut-être dit un petit mot, parce qu'elle aime cela. Mais quant à m'ouvrir à elle, comme je m'ouvre maintenant à vous, quant à lui confier les noms et les circonstances, pas de danger, Batouchka. Pourquoi en ce moment m'adressais-je à vous ? Parce que, après tout, vous êtes un homme sérieux et possédant une longue expérience du service. Vous avez appris à Pétersbourg comment il faut procéder dans de pareilles affaires. Mais si, par exemple, je révélais ces 2 noms à Julie Mikhailovna, elle se mettrait tout de suite à battre la grosse caisse. Elle veut esbrouffer la capitale. Non, elle est trop ardente, voilà. Oui, il y a en elle un peu trop de cette fougue. Murmura non sans satisfaction André Antonovitch, mais en même temps il trouvait de fort mauvais goût la liberté avec laquelle ce mal appris s'exprimait sur le compte de Julie Mikhailovna. Cependant, Pierre Stepanovitch jugea sans doute qu'il n'en avait pas encore dit assez et qu'il devait insister davantage sur ce point pour achever la conquête de Lampke. « Oui, comme vous le dites, elle a trop de fougue, » reprit-il. Qu'elle soit une femme de génie, une femme littéraire, c'est possible. Mais elle est frêle et moineau. Elle ne pourrait attendre, je ne dis pas 6 jours, mais 6 heures. André Antonovitch, gardez-vous d'imposer à une femme un délai de 6 jours. Voyons, vous me reconnaissez quelque expérience, du moins dans ces affaires-là. Je sais certaines choses, et vous-même n'ignorez pas que je puis les savoir. Si je vous demande 6 jours, ce n'est point par caprice, mais parce que la circonstance l'exige. « J'ai ouï dire, » commença avec hésitation le gouverneur, « j'ai ouï dire qu'à votre retour de l'étranger, vous aviez témoigné, à qui de droit, comme un regret de vos agissements passés. Eh bien,
Naturellement, je n'ai pas la prétention de m'immiscer. Mais il m'a toujours semblé qu'ici, vous parliez dans un tout autre style, par exemple sur la religion chrétienne, sur les institutions sociales, et enfin sur le gouvernement. J'ai dit bien des choses. Je suis toujours dans les mêmes idées. Seulement, je désapprouve la manière dont ces imbéciles les appliquent. Voilà tout. Cela a-t-il le sens commun de mordre les gens à l'épaule ? Réserve faite de la question d'opportunité. Vous avez reconnu vous-même que j'étais dans le vrai. Ce n'est pas sur ce point proprement dit que je suis tombé d'accord avec vous. Vous pesez chacune de vos paroles, homme circonspect, observa gaiement Pierre Stepanovitch. Écoutez, mon père, il fallait que j'apprisse à vous connaître. Eh bien, voilà pourquoi je vous ai parlé dans mon style. Ce n'est pas seulement avec vous, mais avec bien d'autres que j'en use ainsi. J'avais peut-être besoin de connaître votre caractère. Pourquoi ? Est-ce que je sais pourquoi ? Répondit avec un nouveau rire le visiteur. Voyez-vous, cher et très estimé André Antonovitch, vous êtes rusé, mais pas encore assez pour deviner cela, comprenez-vous ? Peut-être que vous comprenez. Quoique, à mon retour de l'étranger, j'ai donné des explications à qui de droit. Et vraiment, je ne sais pourquoi un homme dévoué à certaines idées ne pourrait pas agir dans l'intérêt de ses convictions. Cependant, personne là ne m'a encore chargé d'étudier votre caractère, et je n'ai encore reçu de là aucune mission semblable. Examinez-vous-même. Au lieu de réserver pour vous la primeur de mes révélations, n'aurais-je pas pu les adresser directement à... c'est-à-dire aux gens à qui j'ai fait mes premières déclarations ? Certes, si j'avais en vue un profit pécuniaire ou autre, ce serait de ma part un bien sot calcul que d'agir comme je le fais. Car maintenant, c'est à vous et non à moi qu'on saura gré en haut lieu de la découverte du complot. Je ne me préoccupe ici que de Chatoff, ajouta noblement Pierre Stepanovitch. Mon seul motif est l'intérêt que m'aspire un ancien ami. Mais n'importe, quand vous prendrez la plume pour écrire, là, eh bien, louez-moi si vous voulez, je ne vous contredirai pas. Adieu pourtant, je me suis éternisé chez vous, et je n'aurai pas du temps bavarder, s'excusa-t-il non sans grâce. En achevant ces mots, il se leva. Au contraire, je suis enchanté que l'affaire soit, pour ainsi dire, précisée, répondit d'un air non moins aimable Vom Lanck, qui s'était levé aussi. Les dernières paroles de son interlocuteur l'avaient visiblement rasséréné. J'accepte vos services avec reconnaissance, et soyez sûr que de mon côté, je ne négligerai rien pour appeler sur votre zèle l'attention du gouvernement.
6 jours. L'essentiel, c'est ce délai de 6 jours. Durant ce laps de temps, ne bougez pas. Voilà ce qu'il me faut.
Bien.
Naturellement, je ne vous lie pas les mains. Je ne me le permettrai pas. Mais vous ne pouvez vous dispenser de faire des recherches. Seulement, n'effrayez pas la nichée avant le moment voulu. Je compte pour cela sur votre intelligence et votre habileté pratique.
Mais vous devez avoir un joli stock de mouchards et de limiers de toutes sortes, hé hé,
remarqua d'un ton badin Pierre Stepanovitch.
Pas tant que cela, dit agréablement le gouverneur. C'est un préjugé chez les jeunes gens de croire que nous en avons une si grande quantité. Mais, à propos, permettez-moi une petite question. Si ce Kirillov a été le témoin de Stavrogin, alors M. Stavrogin se trouve aussi dans le même cas ?
Pourquoi Stavrogin ?
Puisqu'ils sont si amis.
Eh non, non, non ! Ici vous faites fausse route, tout malin que vous êtes.
Et même vous m'étonnez. Je pensais que sur celui-là vous n'étiez pas sans renseignement.
Stavrogin, c'est tout le contraire, je dis. Tout le contraire.
Avis au lecteur.
Vraiment ? Est-ce possible ?
Fit von Lamke d'un ton d'incrédulité.
Julie Mikhaïlovna m'a dit avoir reçu de Pétersbourg des informations donnant à croire qu'il a été envoyé ici, pour ainsi dire, avec certaines instructions.
Je ne sais rien, rien, absolument rien. Adieu, avis au lecteur.
Sur ce, le jeune homme s'élança vers la porte. Permettez, Pierre Stepanovitch, permettez, cria le gouverneur. Deux mots encore au sujet d'une niaiserie, ensuite je ne vous retiens plus.
Il ouvrit un des tiroirs de son bureau et y prit un pli.
Voici un petit document qui se rapporte à la même affaire. Je vous prouve par cela même que j'ai en vous la plus grande confiance. Tenez, vous me direz votre opinion.
Ce pli était à l'adresse de von Lamke, qu'il avait reçu la veille, et il contenait une lettre anonyme fort étrange. Pierre Stepanovitch lut avec une extrême colère ce qui suit.
Excellence, car votre tchine vous donne droit à ce titre. Par la présente, je vous informe d'un attentat tramé contre la vie des hauts fonctionnaires et de la patrie, car cela y mène directement. Moi-même, j'en ai distribué pendant une multitude d'années. C'est aussi de l'impiété. Un soulèvement se prépare, et il y a plusieurs milliers de proclamations. Chacune d'elles mettra en mouvement 100 hommes tirant la langue, si l'autorité ne prend des mesures. Car on promet une foule de récompenses, et la populace est bête, sans compter l'eau-de-vie. Si vous voulez une dénonciation pour le salut de la patrie, ainsi que des églises et des icônes, seul je puis la faire. Mais à condition que seul entre tous, je recevrai immédiatement de la 3e section mon pardon par le télégraphe. Quant aux autres, qu'ils soient livrés à la justice. Pour signal, mettez chaque soir, à 7 heures, une bougie à la fenêtre de la loge du Suisse. En l'apercevant, j'aurai confiance, et je viendrai baiser la main miséricordieuse envoyée de la capitale. Mais à condition que j'obtiendrai une pension, car autrement, avec quoi vivrai-je? Vous n'aurez pas à vous en repentir, vu que le gouvernement vous donnera une plaque. Motus, sinon ils me tordront le cou. L'homme lige de votre excellence, qui baise la trace de vos pas, le libre penseur repentant, incognito.
Von Lamke expliqua que la lettre avait été déposée la veille dans la loge en l'absence du Suisse.
« Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez ?»
demanda presque brutalement Pierre Stepanovitch.
« J'incline à la considérer comme l'œuvre d'un mauvais plaisant, d'un farceur anonyme.
C'est la conjecture la plus vraisemblable. On ne vous monte pas le coup. »
Ce qui me fait croire cela, c'est surtout la bêtise de cette lettre.
Vous en avez déjà reçu de semblables depuis que vous êtes ici?
J'en ai reçu 2, également sans signature.
Naturellement, les auteurs de ces facéties ne tiennent pas à se faire connaître. D'écriture et de style différents?
Oui.
Et bouffonne comme celle-ci?
Oui, bouffonne. Et, vous savez, dégoûtante.
Eh bien, puisque ce n'est pas la première fois qu'on vous adresse pareille pasquinade, cette lettre doit sûrement provenir d'une officine analogue.
D'autant plus qu'elle est idiote. Ces gens-là sont instruits et, à coup sûr, ils n'écrivent pas aussi bêtement.
Sans doute, sans doute.
Mais si cette lettre émanait en effet de quelqu'un qui offrit réellement des services comme dénonciateur,
c'est invraisemblable! Répliqua sèchement Pierre Stepanovitch.
Ce pardon que la 3e section doit envoyer par le télégraphe, cette demande d'une pension, qu'est-ce que cela signifie? La mystification est évidente.
Oui, oui, reconnut von Lamke, honteux de la supposition qu'il venait d'émettre.
Savez-vous ce qu'il faut faire? Laissez-moi cette lettre. Je vous en découvrirai certainement l'auteur. Je le trouverai plus vite qu'aucun de vos agents. Prenez-la, consentit André Antonovitch, non sans quelque hésitation, il est vrai.
Vous l'avez montré à quelqu'un ?
À personne, comment donc ?
Pas même à Julie Mikhaïlovna ?
Dieu m'en préserve. Et pour l'amour de Dieu, ne la lui montrez pas non plus !
S'écria Von Lampe effrayé.
Elle serait si agitée et elle se fâcherait terriblement contre moi.
Oui, vous seriez le premier à avoir sur les doigts. Elle dirait que si l'on vous écrit ainsi, c'est parce que vous l'avez mérité. Nous connaissons la logique des femmes.
Allons, adieu. D'ici à 3 jours, peut-être, j'aurai découvert votre correspondant anonyme.
Surtout, n'oubliez pas de quoi nous sommes convenus.
Pierre Stepanovitch n'était peut-être pas bête, mais Fedka l'avait bien jugé en disant qu'il se représentait l'homme à sa façon et qu'ensuite il ne démordait plus de son idée. Le jeune homme quitta le gouverneur, persuadé qu'il l'avait pleinement mis en repos au moins pour 6 jours, délai dont il avait absolument besoin. Or, il se trompait, et cela parce que dès l'abord il avait décidé une fois pour toutes qu'André Antonovitch était un fieffé nigaud. Comme tous les martyrs du soupçon, André Antonovitch croyait toujours volontiers dans le premier moment ce qui semblait de nature à fixer ses incertitudes. La nouvelle tournure des choses commença par s'offrir à lui sous un aspect assez agréable, malgré certaines complications qui ne laissaient pas de le préoccuper. Du moins, ses anciens doutes s'évanouirent. D'ailleurs, depuis quelques jours, il était si las, il sentait un tel accablement, qu'en dépit d'elle-même, son âme avait soif de repos. Mais, hélas, il n'était pas encore tranquille. Un long séjour à Pétersbourg avait laissé dans son esprit des traces ineffaçables. L'histoire officielle, et même secrète, de la jeune génération, lui était assez connue. C'était un homme curieux, et il collectionnait les proclamations. Mais jamais il n'en avait compris le premier mot. À présent, il était comme dans un bois. Tous ses instincts lui faisaient pressentir dans les paroles de Pierre Stepanovitch quelque chose d'absurde, quelque chose qui était en dehors de toutes les formes et de toutes les conventions. Pourtant, le diable sait ce qui peut arriver dans cette nouvelle génération. Et comment s'y font les affaires ? Se disait-il fort perplexe. Sur ces entrefaites, Blum, qui avait guetté le départ de Pierre Stepanovitch, rentra dans le cabinet de son patron. Ce Blum appartenait à la catégorie, fort restreinte en Russie, des Allemands qui n'ont pas de chance. Parent éloigné et ami d'enfance de Von Lampe, il lui avait voué un attachement sans borne. Du reste, André Antonovitch était le seul homme au monde qui aimât Blum. Il l'avait toujours protégé, et, quoique d'ordinaire très soumis aux volontés de son épouse, il s'était toujours refusé à lui sacrifier cet employé qu'elle détestait. Dans les premiers temps de son mariage, Julie Mikhaïlovna avait eu beau jeter feu et flamme, recourir même à l'évanouissement, Von Lampe était resté inébranlable. Physiquement, Blum était un homme roux, grand, voûté, à la physionomie maussade et triste. Il joignait à une extrême humilité un entêtement de taureau. Chez nous, il vivait fort retiré, ne faisait point de visite, et ne s'était lié qu'avec un pharmacien allemand. Depuis longtemps, Von Lampe l'avait mis dans la confidence de ses peccadilles littéraires. Durant des 6 heures consécutives, le pauvre employé était condamné à entendre la lecture du roman de son supérieur. Il suait à grosses gouttes, luttait de son mieux contre le sommeil et s'efforçait de sourire.
Puis, de retour chez lui, il déplorait avec sa grande perche de femme la malheureuse faiblesse de leur bienfaiteur pour la littérature russe. Lorsque Blum entra, Andrei Antonovitch le regarda d'un air de souffrance. « Je te prie, Blum, de me laisser en repos, » se hâta-t-il de lui dire, voulant évidemment l'empêcher de reprendre la conversation que l'arrivée de Pierre Stepanovitch avait interrompue. Et pourtant, cela pourrait se faire de la façon la plus discrète, sans attirer aucunement l'attention. Vous avez de plein pouvoir, insista avec une fermeté respectueuse l'employé, qui, l'échine courbée, s'avançait à petits pas vers le gouverneur. Blum, tu m'es tellement dévoué que ton zèle m'épouvante. Vous dites toujours des choses spirituelles, et satisfait de vos paroles, vous vous endormez tranquillement. Mais par cela même, vous vous nuisez. Blum, je viens de me convaincre que ce n'est pas du tout cela. Pas du tout. N'est-ce pas d'après les paroles de ce jeune homme, fourbe et dépravé, que vous-même soupçonnez? Il vous a amadoué en faisant l'éloge de votre talent littéraire. Blum, tu dérailles. Ton projet est une absurdité, te dis-je. Nous ne trouverons rien. Nous provoquerons un vacarme terrible, ensuite on se moquera de nous. Et puis, Julie Mikhailovna... L'employé, la main droite appuyée sur son cœur, s'approcha d'un pas ferme de Von Lamke. « Nous trouverons incontestablement tout ce que nous cherchons, » répondit-il. « La descente se fera à l'improviste de grand matin. Nous aurons tous les ménagements voulus par la personne. » Et nous respecterons strictement les formes légales. Des jeunes gens qui sont allés là plus d'une fois, Liamchin et Teliatnikov, assurent que nous y trouverons tout ce que nous désirons. Personne ne s'intéresse à M. Verkhovansky. La générale Stavrogin lui a ouvertement retiré sa protection. Et tous les honnêtes gens, si tant est qu'il en existe dans cette ville de brutes, sont convaincus que là s'est toujours cachée la source de l'incrédulité et du socialisme. Il a chez lui tous les livres défendus, les pensées de Rileïev, les œuvres complètes de Herzen. À tout hasard, j'ai un catalogue approximatif. Oh, mon Dieu, ces livres sont dans toutes les bibliothèques. Que tu es simple, mon pauvre Blum. Et beaucoup de proclamations, continua l'employé sans écouter son supérieur. Nous finirons par découvrir infailliblement l'origine des écrits séditieux qui circulent maintenant ici. Le jeune Verkhovansky me paraît très sujet à caution. Mais tu confonds le père avec le fils. Ils ne s'entendent pas. Le fils se moque du père, au vu et au su de tout le monde. Ce n'est qu'une frime. Blum, « tu as juré de me tourmenter. Songe-y. C'est un personnage en vue, ici. Il a été professeur, il est connu. Il criera, les plaisanteries pleuvront sur nous, et nous manquerons de tout. Pense un peu aussi à l'effet que cela produira sur Julie Mikhailovna. » Blum ne voulut rien entendre. Il n'a été que docent, rien que docent, et il a quitté le service sans autre titre que celui d'assesseur de collège, répliqua-t-il en se frappant la poitrine. Il ne possède aucune distinction honorifique. On l'a relevé de ses fonctions parce qu'on le soupçonnait de nourrir des desseins hostiles au gouvernement. Il a été sous la surveillance de la police, et il est plus que probable qu'il y ait encore. En présence des désordres qui se produisent aujourd'hui, vous avez incontestablement le devoir d'agir. Au contraire, vous manqueriez aux obligations de votre charge si vous vous montriez indulgent pour le vrai coupable. « Julie Mikhailovna, décampe, Blum !» cria tout à coup Von Lamke, qui avait entendu la voix de sa femme dans la pièce voisine. Blum frissonna, mais il tint bon. « Autorisez-moi donc! Autorisez-moi » insista-t-il en pressant ses deux mains contre sa poitrine. « Décampe !» répéta en grinçant des dents Andrei Antonovitch. « Fais ce que tu veux, plus tard, oh mon Dieu !» La portière se souleva et Julie Mikhaïlovna parut. Elle s'arrêta majestueusement à la vue de Blum, qu'elle toisa d'un regard dédaigneux et offensé, comme si la seule présence de cet homme en pareil lieu eût été une insulte pour elle. Sans rien dire, l'employé s'inclina profondément devant la gouvernante. Puis, le corps plié en deux, il se dirigea vers la porte en marchant sur la pointe des pieds et en écartant un peu les bras. Blum interpréta-t-il comme une autorisation formelle la dernière parole échappée à l'impatience de Voblanck, ou bien ce trop zélé serviteur crut-il pouvoir prendre sous sa propre responsabilité une mesure qui lui paraissait impérieusement recommandée par l'intérêt de son patron? Quoi qu'il en soit, comme nous le verrons plus tard, de cet entretien du gouverneur avec son subordonné résulta une chose fort inattendue qui fit scandale, suscita maintes railleries et exaspéra Julie Mikhaïlovna. Bref, une chose qui eut pour effet de dérouter définitivement André Antonovitch en le jetant au moment le plus critique dans la plus lamentable irrésolution.